Le Logos et le Réma. Jean, chapitre 17, versets 6 à 8. Je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Le mot qui est là, c'est le mot logos en grec. Quand Jean a commencé son évangile, il a dit, au commencement était le logos, la parole. Le logos était avec Dieu et le logos était Dieu. Et le mot logos en grec, ça veut dire l'expression général d'une chose. Ça veut dire que c'est le logos de Dieu, ça veut dire que c'est l'expression générale de la divinité, de la plénitude de la divinité. Logos. L-O-G-O-S. Logos. Expression générale de la plénitude de la divinité. C'était le logos de Dieu. Jésus était le logos de Dieu. 1 Jean chapitre 1. Évangile de Jean chapitre 1, le verset 1, ça dit au commencement était le logos, la parole, et le logos était avec Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le mot parole qui est là, c'est un mot qui vient du grec, qui est le mot logos. Puis logos, ça veut dire c'est l'expression générale, entière, dans sa globalité, dans son ensemble. En d'autres mots, c'est les paroles, c'est Jésus, il a accompli le salut dans son ensemble. Puis c'est le mot logos, ça veut dire c'est l'ensemble des paroles que de la bonne nouvelle, l'ensemble du salut que Jésus a accompli pour nous autres. L'expression entière. On va tourner dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 17. On va voir que là, il y a un autre mot pour le même nom qui est traduit en français par parole. Mais là, en grec, c'est un autre mot. C'est plus le mot logos. Hein? Okay. Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10. Verset 17. Ça dit ainsi... 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais le mot qui est là, le mot parole, qui est dans ce verset-là, ce n'est plus le mot logos. C'est le mot réma. Réma qui veut dire une parole précise. Le logos, ça veut dire l'expression générale de toutes les paroles de Dieu. Jésus, c'est le logos de Dieu, c'est la parole en général, tout l'ensemble du salut. Mais ici, ça parle une parole de Dieu, une parole précise. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la réma de Christ. La parole précise.
Spontanée.
Spontané, dans une situation particulière. Précise. Mais vous pouvez remarquer que c'est la parole, la réma de Christ. La foi vient de la réma de Christ. Le Christ, c'est Jésus. Christ, c'est le Logos. Parce que Jésus-Christ, c'est le Logos. Donc, ça vient de la réma. La foi vient de la réma. De la du logos,
Le réma du logos.
Le réma du logos.
Moi, je ne comprends pas bien.
Explique-le avec
lui. Explique-moi.
Rappelle ça, tout logos, puis réma.
J'aime te suivre en te regardant.
C'est ça.
Pour que mon esprit puisse me révéler le réma.
J'agis avec des gestes aussi. Ce qu'on entend, la foi vient de la parole. Le mot parole, c'est le mot réma. Vient de la réma de Christ. Mais Christ, c'est Jésus.
Qui est
Christ,
logos.
Qui est logos. Oui. Okay.
Une parole précise, spontanée, contextuelle.
OK. C'est ça. Donc, reprenons, c'est la parole de Christ ou c'est la réma du logos.
OK.
La réma du réma. Logos. Autrement dit, c'est comme si le logos, c'est l'ensemble, pour expliquer de façon plus simple. Le logos, c'est l'ensemble de la promesse de Dieu. L'ensemble. C'est toutes les promesses de Dieu pour nous autres en Jésus-Christ, accomplies à la croix. Tout a été accompli. C'est le tout accompli de la croix. Logos. Ça, c'est le logos. Mais dans ma vie, aujourd'hui, s'il arrive une situation que le logos n'est pas accompli, par exemple, il arrive une maladie, on sait que par ses blessures, nous sommes guéris. Ça, c'est le logos de Dieu, c'est la promesse générale de Dieu. Mm. Là, il arrive une situation particulière, prenons une maladie, là, parce que c'est un sujet bien précis. Il arrive une situation où le logos de Dieu n'est pas accompli. Là, on a besoin d'une réma
Alléluia!
Du logos. Okay, on a besoin que le logos...
C'est une parole particulière.
Une parole particulière.
Stéphanie est possible.
Une parole de la circonstance.
Là, je suis un peu perdu de la façon de t'expliquer ça. Rappelle-toi tout le logos puis réma parce que c'est... On va dire logos et réma, parce qu'on se parle.
Tu ne comprends pas.
La foi...
Hein?
La
logos, c'est la parole. Mais réma, c'est quoi?
Oui! Dis ceci.
Parce que...
Logos...
J'étais commencé
c'est Jésus.
À écouter Réma, Logos, et beaucoup de les prédicateurs, ils prêchaient ça pour Réma, pour Logos. Mais ça, c'est l'autre
dimension.
Oui. Pour nous, c'est notre
révélation
que j'attends ici. Okay. Oui.
La foi, parce que le verset 17, ça dit bien, la foi vient de la parole de Christ. Mais le mot parole ici, là, c'est pas logos. Le mot qui est employé en grec pour parole,
c'est quoi la différence entre
logos et les paroles?
C'est ça.
Une parole précise, spontanée pour toi à ce moment-là.
Oui. C'est que je voulais. C'est ça le
réma. C'est les paroles précieuses.
Précises, dans une situation
ça,
précise.
Ça, c'est tout ce que Dieu est, le logos. L'ensemble de sa révélation,
de sa promesse.
De sa promesse.
Mais là, à un moment donné, dans une situation quelconque, il te donne une parole précise par son esprit. Alors, ça, c'est juste pour toi. Ça va t'aider toi. Tant que c'est le réma.
Ce que tu viens de dire vient d'être réma pour
Jeannette.
C'est une révélation pour elle. Elle n'a jamais su ce que ça dit. Mais entre-temps, quand tu parles, c'est comme si tu lui donnais sa révélation. C'est une parole, c'est particulier. Ce qu'elle a compris, ce n'est pas ce que nous avons compris. Elle a saisi un message particulier d'elle-même. Une ouverture qui vient de Dieu d'elle-même. C'est ça le réma.
Le réma, dans le fond, c'est une révélation du logos dans ma situation
actuelle.
Parce que j'ai besoin que le logos, qui est très général, s'applique quand j'en ai besoin dans la situation aujourd'hui. Là. Parce que le logos, il couvre toutes les situations. Le logos de Dieu couvre toutes les situations. Quand il arrive une situation se présente où c'est le non-logos dans le sens que c'est bon, c'est la maladie et la parole me dit que par ses meurtrissures je suis guéri, donc la maladie n'a pas sa place là, elle est illégale par rapport au Logos, par rapport à ce que Jésus a accompli. Elle est illégale. Elle n'a pas sa place là. Elle n'a pas le droit d'être là. Mon droit, c'est d'être guéri en Jésus-Christ. Ça, c'est mon droit, c'est la promesse, c'est le Logos. Ça fait référence au Logos. Fait que je me tiens devant Dieu pour que ce Logos-là, qui est comme dans les cieux généraux, devienne à moi par le Saint-Esprit. Je le réclame. Je le revendique devant Dieu pour que le Saint-Esprit rende vivant et actuel le Logos. Parce que c'est ça, c'est son travail. On va tourner dans Jean chapitre 16, verset 13 à 15. Jean chapitre 16, verset 13 à 15.
Jean
chapitre 16,
13
à 15. Jean 16, 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. OK? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus, le Logos, parce qu'il va prendre ce qui est au Logos, ce qui est à moi. C'est qui prend ce qui est à Jésus? C'est le Logos, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient prendre ce qui est à Jésus et nous le communiquer.
En réma.
C'est lui qui fait le réma, parce que le réma, ça vient du Saint-Esprit. OK? Dans Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17. Ça dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, OK, qui est la parole de Dieu. Mais le mot parole, c'est quoi vous pensez?
Que?
L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu.
Qui est la parole de Dieu. Mais le mot parole qu'on lit là en français, c'est quoi vous pensez qui est en grec?
L'Esprit. L'Esprit qui?
Ça dit l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Comment dire l'épée de l'Esprit? L'épée qui sort de la bouche de l'Esprit, c'est la parole de Dieu.
C'est le réma.
Okay? Parce que le mot là,
c'est ça. Le mot qui est là, parole de Dieu, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, ça c'est le réma. C'est pas le logos parce que le réma sort de l'Esprit, mais il vient de où? Il vient du logos par exemple.
Logos.
C'est le réma parce que le Saint-Esprit il prend ce qui est à Jésus.
C'est ce qui est de logos.
C'est ça.
Pour le glorifier.
C'est ça. Il prend ce qui est à Jésus puis il nous le donne. C'est un communicateur, le Saint-Esprit.
Il actualise.
Il rend efficace dans la situation présente. Ça demande pour nous simplement une revendication, une réclamation. On dit, Seigneur, la parole, il faut que je connaisse mes droits. La parole, le logos me dit cela. Le salut qui est accompli en Jésus-Christ me dit cela. C'est une promesse. Je prends une promesse dans la parole. Je pense qu'il y en a, je ne sais pas combien de nombres, là. Il y en a 3000, je pense, plus que 3000.
Je ne sais pas si vous avez vu le CD du pasteur des Nigériens qui était mort et qui est revenu à la vie. Okay. Il y a un pasteur de Nigeria qui a fait un accident d'auto sur la route, qui est mort. Il a été embaumé pendant 3 jours. Quand on a appris, tu connais ça, quand on a appris à sa femme que son mari est mort, ce que je veux savoir là, c'est ce que cette femme-là a fait, les gestes qu'elle a fait, je voudrais savoir si c'était le gosse ou les rémi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réclamé la vie de son mari auprès de Jésus. Elle a dit, toi tu m'as dit que cette fois-ci, il n'y aura plus de malheur dans ta maison. Et pourquoi mon mari vient de mourir?
Ça, c'était le logos. Elle s'appuyait sur une promesse de Dieu. Mais son insistance, c'est ça, son insistance auprès de Dieu a permis que le Saint-Esprit devienne à chercher ce logos-là puis donne une réponse à cette femme-là.
Mais elle dit que Dieu lui a révélé, c'est pas le réma, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé, il n'y aura plus de malheur dans ta maison cette fois-ci.
Oui, ok, oui, c'est une révélation de son, que le Saint-Esprit lui a donné, c'est une réma. Quand c'est révélé, ça devient de la mort. Quand c'est révélé par le Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit, il donne, il prend le logos, puis là, il nous le met dans le cœur, par une révélation. C'est toujours par révélation. Il met dans le cœur, puis là, avant que le logos, qui est la promesse que le Saint-Esprit nous a donnée, se réalise, parce que là, il nous le met dans le cœur par une révélation d'abord. Mais là, il y a un temps. Entre le temps où tu l'as dans le cœur, puis qui se réalise. Là, c'est comme, il y a un pasteur qui disait, c'est comme, tu deviens enceinte. Tu portes un bébé qui est la promesse que le Réma a mis
dans toi,
que le Saint-Esprit a été cherché à Christ, puis là, il l'a donné à toi, puis t'a révélé cette promesse-là, une promesse particulière de la parole. Là, ça devient comme un bébé, tu l'as, tu le serres, ça l'a réchauffé ton cœur, tu le serres dans ton cœur, là, tu as l'air aimant, tu deviens enceinte. Puis là, le jour, ça peut prendre un certain temps avec le bébé, avant que la promesse, le aimant que Dieu t'a donné, accomplisse le gosse, accomplisse la promesse qui est venue de Jésus. C'est comme un peu l'image, une autre image, c'est comme la poule qui a des œufs. Qui a des œufs, puis à l'intérieur, l'œuf, il est vivant. Il a reçu un germe, il est vivant, il va donner un poulet. Mais il faut que le petit œuf soit couvé par la poule. Puis c'est la même chose pour nous autres. Quand le Saint-Esprit nous donne une promesse, un réma, il faut le serrer dans notre cœur, il faut rester
dans les promesses.
Dans la chaleur de l'Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui couvre cette promesse-là. Là. Il faut rester comme dans la communion avec le Saint-Esprit, qui couvre, qui la refortifie, qui la renouvelle, qui la rend toujours chaude, là, tu sais. Il faut que l'œuf reste chaud. Si l'œuf vient froid, il va mourir. Il faut que l'œuf reste chaud, coupé par le Saint-Esprit. Puis c'est sûr qu'à l'extérieur, si tu mets l'œuf à côté d'une pierre, quelqu'un peut penser que c'est mort comme une pierre. C'est la même chose quand tu as une réma. Tu passes par un temps où ça ne semble pas accompli. Il y a un temps où la réma que tu as reçue dans ton cœur est comme... Il y a comme une écaille d'œuf par-dessus, portant toujours avec nous la mort de Jésus. C'est comme si cette réma-là passe au travers d'un processus de mort, on devient un avec Jésus dans sa mort, parce qu'il y a comme une mort qui enveloppe ce réma-là, qui est juste une mort apparente. Parce qu'en dedans, là, la promesse est bien vivante. Elle.
Ouais.
Dans ton cœur, ça c'est vivant. Ça a réchauffé ton cœur, tu sais que c'est vivant.
Mm-hmm.
Mais il peut y avoir un temps où, comme dit l'apôtre Paul, portant toujours avec nous la mort que Jésus, on a vu ça ce passage-là il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a un temps où c'est comme si la promesse. Il faut d'abord qu'elle soit révélée comme un réma, ça c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, il faut qu'elle passe un temps d'incubation. Un temps où ça va sembler que c'est encore mort, où tu ne vois pas le bébé encore. Tu ne vois pas la promesse encore. Mais c'est la foi. Parce que le réma, ça dit, ça crée la foi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ma foi vont être fortifiés par le réma, puis avoir resté fort par la présence de l'Esprit, qui va toujours réchauffer cette parole. On va tourner dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, verset 26. 5 à 27. Luc chapitre 24, verset 25 à 27. On a là une image de l'action de l'Esprit de Dieu dans les cœurs. Luc 24, verset 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Il y a ici quelque chose, c'est toute la parole est centrée sur Jésus. Et cette promesse que Jésus, ce salut que Jésus est venu apporter, n'est possible qu'à cause des souffrances de Christ, à cause de la croix. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il y a un chemin. C'est que tout le logos de Dieu n'aurait jamais pu être un logos pour nous autres si Jésus n'aurait pas été à la croix. Puis là, Jésus a pris la peine d'expliquer dans les Écritures tout ce qui le concernait. Jésus était le centre de toute l'Écriture. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ça reste le centre de toute la vie, le salut, la vie chrétienne, toutes les promesses que Dieu a pour nous, c'est tout là. C'est tout au travers de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Toute la parole ne parle que de lui. Toutes les Écritures, tous les prophètes ne parlent que de lui. Parce que c'est lui le Logos, c'est lui la promesse.
Amen.
C'est lui l'expression de la volonté de Dieu pour moi. La volonté du Père pour moi, c'est le Logos. Mais le Logos crucifié, parce qu'il fallait qu'il passe par la croix. Ça fait qu'il y a ce grand aspect que tout est accompli à la croix. Ce grand aspect de la croix, c'est le Logos pour moi, mais j'ai besoin d'une révélation de ce tout accompli, de cet héritage glorieux que Dieu a pour nous autres. J'ai besoin d'une révélation particulière dans mon cœur pour une situation particulière. J'ai besoin que Dieu, le Saint-Esprit, me parle, me révèle ce qui appartient à Jésus, me communique, aille me chercher dans la présence de Jésus, puis me le donne à moi. Puis après, parce que ça c'est la première étape, une révélation du Logos qui devient une réma dans mon cœur. Puis après, il faut que moi-même, je suive Jésus, le Logos, à la croix. Parce qu'il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Il y a comme une mort qu'il faut porter, nous autres aussi. C'est ça que je parle de l'œuf. Il semble mort. Il y a comme une mort qu'on doit porter avant que la promesse se réalise. Avant que la puissance de la résurrection de Christ se manifeste dans ma vie. J'ai comme une mort à porter. Mais en dedans, c'est vivant. C'est vraiment, il vit. Là. Il apporte une grande gloire. Les apôtres, les disciples, quand ils ont entendu Jésus, ça dit au verset 32, les deux disciples d'Emmaüs ont dit, quand ils ont entendu parler de Jésus, ils ne l'ont pas reconnu sur le coup, mais après, ils se sont dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ça, c'est l'action de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il rend chaud la parole, le Logos. Il rend réel. Ça, c'est verset 32, c'est encore le chapitre 24. Luc 24, le verset 32. Notre cœur ne brûlait-il pas? Ça, c'est l'action de l'Esprit de Dieu qui vient réchauffer notre cœur.
Ça, c'est le
rhéma. Parce que le Logos, on peut le comprendre avec notre tête, puis c'est Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Bon, on le comprend avec notre tête. Mais il faut le saisir avec notre cœur. Ça, c'est une question de l'Esprit de Dieu. Il vient dans une situation particulière, puis il nous révèle. Ça, ça a été accompli la croix. J'ai pas besoin de porter ça. Jésus-Christ a porté ça à la croix. Là, ça me réchauffe le cœur. C'est sa présence, c'est son feu, c'est le feu de l'Esprit qui réchauffe le cœur. Ça, c'est glorieux parce que Jésus a fait plein de miracles, a fait plein de guérisons, mais parce que Jésus n'était pas encore été sur la croix, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Parce que ça dit bien que le Saint-Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié sur la croix. Mais quand Jésus est mort sur la croix, le Saint-Esprit a pu être répandu. Puis là, les cœurs ont commencé à se réchauffer. Parce que ça, ça n'avait jamais arrivé avant. Les disciples, ils voyaient des miracles, ils croyaient. Mais souvent, le lendemain, on le voit, Jésus dit, « Homme, sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit des prophètes. » Leur cœur était lent à croire parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Le Saint-Esprit, lui, il vient réchauffer le cœur, puis il met la foi. Puis ça, c'est quelque chose, c'est ça que Jésus a dit quand il a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi je fais. » Et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père, puis je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Puis avec le Saint-Esprit, il va y avoir quelque chose qui va être... Parce que le Saint-Esprit, dans Galates, ça dit que c'est la promesse de Dieu aussi. Tant que le Saint-Esprit n'était pas venu, cette glorieuse logos-là, cette glorieuse promesse de Dieu-là, on ne pouvait pas la saisir. Parce que notre cœur était comme foi. Notre cœur, on comprenait juste que la tête, on ne pouvait pas se saisir de cette promesse-là. Mais quand le Saint-Esprit est venu, là, il touche les cœurs. Il brûle dans notre cœur, son feu brûle. Puis il nous fait comprendre le logos. Il nous révèle sa parole. Il nous révèle tout ce que Jésus a compris. L'apôtre Paul, il dit dans la Galate, chapitre 1, verset 13, il dit, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance de toutes ces choses. » Il parle de l'Évangile, il parle du salut. Il dit, « C'est pas avec la tête que j'ai compris ça. C'est par révélation. » Quand on dit révélation, on parle du Saint-Esprit. C'est par révélation du Saint-Esprit qu'il a compris tout ce que Jésus avait compris à la croix. Il a compris ce merveilleux logos-là. Parce que le réma, il fait juste glorifier Jésus. Le réma, il ne prend pas ce qui était à lui. Ça dit, on a lu le verset tantôt. Il dit, il prend ce qui était à Jésus, ce qui appartient au logos. Il ne prend pas ce qui était à lui. Il ne se glorifie pas lui-même, le Saint-Esprit. Il glorifie Jésus. Vous savez, il y a tout un mouvement aujourd'hui dans les églises, certaines églises, qui appellent un mouvement prophétique. C'est devenu le réma pour le réma. C'est devenu, on cherche juste des réma, mais tout vrai réma glorifie Jésus. Tout vrai réma sort du logos.
C'est basé sur le logos.
C'est ça, se base sur la promesse de Dieu. Puis quand le réma, c'est le réma pour le réma, ça avorte.
Ça crée une confusion.
Ça avorte parce que c'est pas ça. Le réma, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Mais quand c'est juste les dons de l'Esprit, on cherche les prophéties, on cherche les guérisons, les miracles, là on ne parle plus de Jésus, on ne parle plus de la croix de Jésus.
Est-ce que tu as une église chez nous?
Oui.
Maintenant, chacun a une révélation, si elle est vraie ou fausse, tellement je ne sais même pas s'il prie encore, sont révélés par qui, je ne sais pas. Il suffit que quelqu'un ait quelque chose là, Dieu m'a révélé que je dois fonder mon église. Je dois aller avec deux, trois frères. Il est parti créer une église. Il se fonde sur un seul verset biblique. Commence à critiquer les autres. Là où on était avant, ce n'était pas bon. Maintenant, vous allez voir la puissance de Dieu agir. Demain, après demain, un des frères parmi ceux qui sont partis a eu aussi une révélation. Il est parti. Des révélations en révélations. Maintenant, on doit fonder l'église sur les réma ou sur les logos et les réma ou sur les logos seulement.
C'est le réma du logos. La parole de Christ, le réma, parole de Christ, du logos. Thomas dit, le réma, oui, le Saint-Esprit, mais
Christ. Il puise quelque part, la Bible nous le montre.
C'est ça.
Qu'il puise dans le logos pour glorifier le Jésus.
C'est ça, pour glorifier, toujours glorifier Jésus.
Oui, c'est ça.
La croix de Jésus. Quand on voit un mouvement, parce que d'autres aussi ont été dans le mouvement prophétique, c'est juste devenu la prophétie. On a remarqué.
D'où vient cette prophétie-là? C'est
on a remarqué que ces gens-là ne parlent presque plus de Jésus. Ils ne parlent plus de la croix non plus.
Non.
C'est juste
Dieu m'a dans l'esprit.
C'est des paroles de destinée. Des
on a vu la même chose dans le mouvement charismatique, c'est catholique. Les gens ont vu des miracles, des guérisons, puis là, il y avait des manifestations de l'esprit. Mais parce que les gens catholiques n'ont pas parlé de Jésus, puis n'ont pas centré sur la Bible, ça a complètement avorté.
Oui.
Parce que ça ne peut pas, il faut que ça glorifie Jésus. C'est comme s'ils ont profité. Ils ont profité des choses de l'esprit, parce que l'esprit, c'est comme, il est répandu sur toute chair, ça dit. Oui. Ça fait qu'eux autres, ils en ont profité. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas limité.
Mais ils en profitent en mal.
C'est ça. C'est pour ça que Jésus a dit, il y en a qui vont dire, j'ai chassé des démons, Seigneur, j'ai guéri des malades en ton nom. Le Seigneur va leur dire, je ne vous connais pas. C'est ça, c'est parce qu'il faut connaître le Logos. Notre relation est avec le Logos. Il faut connaître Jésus-Christ. Il faut connaître la croix de Jésus-Christ. Tout ce qui était accompli à la croix. Puis il faut connaître aussi, nous, porter la croix à la suite de Jésus. Parce que c'est plus moi qui vis.
C'est Christ qui vit en moi.
Fait qu'il faut que ce soit Christ qui soit élevé. Ça fait que, c'est ça qui fait que, justement, tout mouvement qui n'est pas centré sur Jésus-Christ dérape. Ça passe à côté. Parce que
c'est plus moi qui vis là, c'est ce qui crée.
C'est pour c'est ça qu'on nous a encore l'assurance de dire à tous ceux qui ne sont pas basés sur Christ le Messie et Jésus-Christ crucifié, ils vont vériter.
Et voilà, moi je viens d'avoir une réma, ou un réma, tout de suite là quand tu dis ça. Tu dis, toute révélation doit venir du Logos, c'est ça,
ouais,
non
ouais.
L'Esprit ne doit parler que de ce qui vient de Logos. Il doit puiser dans le Logos, disons, pour glorifier Jésus.
Ouais.
Mais une révélation ne peut pas être pour l'intérêt de quelqu'un.
Jamais.
Dieu peut révéler à chacun sa part pour la contribution dans l'Église, mais pas pour sortir de son Église pour créer la confusion. Dire, moi, je parle, le Saint-Esprit me parle maintenant, je n'ai pas besoin de continuer avec l'Église, parce que maintenant, il m'a donné ma part.
Non.
C'est ce que...
Non.
Maintenant, tu dis, quand Jésus viendra, malgré qu'ils ont eu de la révélation, par l'Esprit, mais ils n'ont pas suivi les chemins qu'il fallait suivre, qui est la croix de Jésus.
Tout ce qui est à la croix de Jésus,
tout ce qui est accompli à la croix,
puis moi en arrière de Jésus.
Et moi, s'ils n'ont pas pu porter leur croix sur Jésus,
c'est là qu'on apprend à connaître Jésus.
Oui, Jésus leur dira que je ne vous connais pas. Ils diront, nous avons chassé les démons. Oui, par révélation. Mais révélation qui était pour l'édification de l'Église. Pas pour une édification, pour un intérêt personnel.
Oui.
Mais eux, ils ont profité en mal pour leur propre intérêt.
Pour eux-mêmes.
De ce que l'Esprit
leur donnait.
Leur a révélé.
Mm-hmm. C'est pour ça que Paul dit.
Ah, c'est faux ça.
Il y en a qui prêchent Christ.
Ouais.
Par envie.
Par intérêt.
Par intérêt.
Il dit, Paul, il dit, je me réjouis que Christ est prêché, mais, parce que, quand, peu importe si Jésus, si c'est un homme qui prêche Christ,
ça, c'est quelque chose de
mais
Christ,
il dit, il y en a qui prêchent Christ par mauvais, par intérêt, dans le sens que, c'est pas pur, leur, ils font par profit, c'est comme si c'est des profiteurs, mais c'est pas des suiveurs de Jésus, ils profitent de Jésus, comme Judas, hein. Judas c'est un profiteur de Jésus. Il voulait prendre de Jésus tout ce qu'il pouvait prendre. Puis même, il a vendu 30 pièces d'argent, il dit on va prendre de l'argent même de Jésus. C'est un profiteur. Mais ce n'était pas un vrai disciple de Jésus. Il ne voulait pas vraiment Jésus. Il ne voulait pas suivre et se soumettre.
Il était à côté de Jésus. Il a marché avec Jésus. Mm-hmm. Plus que les Paul et les gens, Jean et les autres, Jean n'a pas marché avec Jésus. Jean n'était pas disciple de Jésus. Jean était disciple.
C'est Paul.
Paul n'était pas disciple de Jésus. Mais il a connu Jésus plus que Judas. Lui qui était à côté de Jésus, qui a mangé avec Jésus, qui était partout avec Jésus. Mais un profiteur.
Il l'a trahi en plus.
Il l'a trahi. Non. Ce que tu as dit là est très fort. Je ne sais pas si vous l'avez compris comme moi je l'ai compris. Moi je sens ça que ça m'a dépassé vraiment.
C'est quand tu comprends comme une masque.
Je suis en train de m'imaginer que les gens se poumonnent jour et nuit pour dire nous sommes à l'œuvre de Dieu. Mm. C'est-à-dire ils sont là, ils vont d'église en église. Mm-hmm. De communauté en communauté, ils prêchent Jésus, les gens se convertissent, mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Ils le font pour leur propre intérêt. Ouais. Ils n'hériteront rien, font un travail vain.
Mais ils vont hériter de quelque chose, puisque la Bible est claire, je pense que c'est dans Jude ou dans Timothée, qui dit qu'il y a un esprit d'égarement qui va s'attacher à eux parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. C'était plus pour un profit. À un moment donné, ils vont s'égarer.
C'est ça que j'ai dit.
Loin de la foi.
Ouais.
Ils font des miracles, ils donnent des prophéties, ils font tout ça. Mais pour leur propre intérêt, pour se faire valoir et se faire. Pour paraître. Mais ils n'ont pas Jésus en eux. Ils travaillent pour eux, pour leur ventre, pas pour Jésus.
C'est pour ça que c'est...
Mais ils ont Jésus avec eux, comme Judas était avec Jésus.
Oui, ils ont un Raymond, là, mais ils ont pas le vrai.
Oui,
ils ont un Raymond.
Ils sont à côté de la parole, mais ils n'ont pas la parole en eux.
C'est ça.
Ils sont à côté de la parole parce que Judas était à côté de Jésus, mais il n'avait pas Jésus en lui. Il n'avait pas Jésus en lui. Il faisait semblant de connaître Jésus, mais il ne le connaissait pas. Il avait un intérêt particulier, c'est de les vendre et de les trahir, tout court. C'est comme on dit, pour tuer l'ennemi, il faut mieux l'approcher. Approche l'ennemi pour mieux l'éliminer, c'est ça. Il l'a approché pour pouvoir le connaître et l'éliminer. Mais il n'a pas approché pour le suivre jusqu'à sa fin.
C'est pour ça que c'est si important de
s'entraîner. Et quand toutes ces histoires-là, tu les puisses où, toi?
Yeah. C'est Saint-Esprit, les Raymond, du yoga.
C'est pour ça que c'est si important de se centrer sur Jésus-Christ, sur le Logos, sur la croix de Jésus. Parce que c'est une sécurité. C'est notre refuge. La croix, c'est notre refuge pour tous nos besoins, mais c'est notre refuge aussi pour notre propre moi, parce que ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ en moi.
Louer le moi à la croix.
Mettre le moi à la croix pour pas qu'il soit dans les jambes, pour qu'il soit au travers de l'œuvre de Dieu. Parce que tant que le moi, comme je disais une fois, tant que le moi est là, Dieu ne peut pas agir. Il faut qu'il humilie le moi, il faut qu'il tasse dans un coin, il faut qu'il mette sur le bois de la croix.
Mais Dieu est de toute bonté, vraiment. Quand nous autres, là, nous sommes encore en train de vivre avec nos mois là, mais il agit dans nos vies. Oh non, il est merveilleux, il faut l'appeler Dieu.
Amen. Ésaïe, chapitre 2, le verset 3. Ésaïe, chapitre 2, verset 3. La dernière partie du verset. Okay, c'est un verset qui est répété deux fois dans l'Ancien Testament qui est très très important. Mais la dernière partie du verset. On peut lire le verset au complet, là. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Cette petite phrase-là, là, « De Sion sortira la loi » et de Jérusalem, la parole de l'Éternel, ça parle de la Nouvelle Alliance. Ça parle de ce qui s'en vient avec Jésus. Parce qu'il y a quelque chose de spécial avec ça. Sion, ça veut dire ensoleillé. Le mot Sion veut dire ensoleillé. Or, la montagne de Sion, elle était au nord de Jérusalem. OK? Au nord de Jérusalem, à une place où il n'y a jamais de soleil, parce que le soleil ne va jamais au nord. Hein? Le soleil, il se lève à l'est.
À l'ouest.
Il ne va jamais au nord. Mais Dieu avait choisi la montagne au nord de Jérusalem, puis il l'a appelée ensoleillée, Sion. Ça veut dire une place où il n'y a pas de soleil naturel. J'ai dit, moi, je vais mettre un soleil spirituel.
Lui, il va ensoleiller.
Il va ensoleiller la chose. Mais la vraie montagne de Sion, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, quand il est mort sur le mont Golgotha, qui était au nord de Jérusalem, qui était la montagne de Sion. La montagne de Sion, quand on parle de la montagne de Sion, on parle de la place où Jésus a versé son sang. C'est la montagne de Sion. De cette place-là va sortir la nouvelle loi. Parce que quand il dit de Sion sortira la loi, l'ancienne loi est sortie du mont Sinaï. L'ancienne loi, l'Ancien Testament, est sortie du Sinaï, pas sortie de Sion. Là, c'est une prophétie pour la loi de Jésus. De Sion. Sion, ça veut dire de la croix.
La montagne de Golgotha,
c'est la montagne de Sion dans la prophétie d'Ésaïe.
C'est là que Jésus est mort à la montagne de Golgotha qui est au nord. Mais la montagne de Sion était au nord aussi de Jérusalem. Donc, ce que Jésus, la prophétie-là, ça parlait de la place où Jésus allait mourir sur la croix. Puis la loi de Sion, c'est quoi? Tout est accompli. C'est ça la loi de Sion.
C'est ça.
Jésus, à la croix, a accompli tous les prophètes. La loi, il a accompli la loi, il a accompli les sacrifices, il a accompli tous les prophètes. Il a tout accompli. Tout est accompli. Ça, c'est la nouvelle loi de Sion qui sort de la croix de Jésus-Christ. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il y a deux choses là. Il y a la croix où tout est accompli, mais il y a une autre chose aussi. De Jérusalem. C'est quoi Jérusalem? Dans Galates chapitre 5, ça dit notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Galates chapitre 5. Verset 21, je pense. Notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Ça dit ça. Dans l'Apocalypse, ça dit, il a vu paraître l'épouse, la femme de l'agneau. L'épouse, c'est l'Église, c'est nous autres. Il a vu paraître l'épouse, la femme de l'agneau.
L'agneau, c'est Jésus.
Oui.
Mais c'était la Jérusalem. C'était Jérusalem. Il a montré Jérusalem, la ville d'or, qui s'est parée comme une épouse, qui s'est parée comme une épouse pour son agneau. Et Jérusalem, c'est l'épouse. C'est l'image de l'épouse de Christ. C'est l'image de l'Église. Mais ici, il y a une prophétie, et de Jérusalem, c'est-à-dire de l'Église, va sortir la parole de l'Éternel. C'est une image. La parole de l'Éternel, de l'Église, va sortir la parole de Dieu, dans le sens que l'Église, c'est elle qui est appelée à couver le rémon, qui est appelée à couver, tout est accompli. Elle couvre ça dans son cœur, puis elle est appelée à porter la croix derrière Jésus. L'Église a dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. L'Église devient un avec Jésus. La parole de l'Éternel dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis quand je vis ça, que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, puis que j'ai cette parole de Raymond, du Logos, qui vit en moi, la puissance de la résurrection se manifeste. La parole de Dieu, le Raymond de Dieu, se manifeste, sort de moi, parce qu'il dit bien, les fleuves d'eau vive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Saint-Esprit veut nous utiliser, mais il faut comme couver cette parole-là, la recevoir, comprendre, tout est accompli, comprendre cette loi merveilleuse-là, que tout est accompli à la fois, tout ce que Jésus a accompli. Puis devenir un ensuite dans sa mort, devenir un avec lui, pour que de nous sorte la parole de l'Éternel. Parce que cette parole, la parole éternelle, c'est quoi? Ce n'est plus moi qui vis. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. L'épouse était devenue un avec son Seigneur. L'épouse, elle reconnaît sa faiblesse. On a besoin de, l'épouse a besoin d'un époux, parce que c'est l'époux qui est supposé être fort. C'est l'époux qui est supposé pourvoir aux besoins de l'épouse. Puis c'est Jésus, celui qui pourvoit à nos besoins. C'est Jésus qui est supposé pourvoir à nos besoins. Une œuvre que Dieu veut faire. Il veut manifester pleinement ce tout accompli-là en nous et nous rendre un avec lui. L'œuvre de Jésus, le tout accompli, c'est tellement grand. J'avais quelque chose à donner là-dessus, mais je pense que j'aurais pas le temps, parce que ce serait trop long.